Bonjour Hervé Lemaine, vous êtes médiateur scientifique à la bibliothèque universitaire pour l'UBO.
Je suis conservateur de bibliothèque et je suis responsable de la mission médiation scientifique, non pas de l'UBO, mais de la bibliothèque. Faut le préciser. Ouais.
Et en quoi ça consiste d'être un médiateur scientifique au quotidien à l'UBO et dans les bibliothèques universitaires ?
À ce stade, ça fait 2 ans que la mission existe. Ma mission, c'est essentiellement d'organiser des rencontres autour de la science. Et aussi, j'ai monté une exposition, par exemple, sur le verrier scientifique de l'UBO. Et notamment avec l'aide du SIAM, qui est un service qui s'occupe d'audiovisuel, on a fait un court-métrage sur le verrier de l'UBO, et on a fait aussi une exposition avec des photos, etc., sur son travail. Ça, c'est pour les expositions, et pour les tables rondes, il y en a différents types que je peux détailler, si vous le souhaitez. Il y a 3 types de rencontres. La première, la plus importante, peut-être, c'est des tables rondes qui s'appellent « Tables rondes science et société ». Bon, ça dit bien ce que ça dit, hein, toutes les relations entre la science et la société. Donc le format, là, c'est 2 heures. Ça se passe en général de 18h à 20h. Et j'invite idéalement 3 personnes de disciplines différentes. Ça m'intéresse beaucoup de croiser des disciplines, sociologie, psychologie, etc., sur un sujet de science et société. Et il y a aussi une place, évidemment, pour les questions. Donc le format, c'est 1h, 1h30 pour les intervenants. Et la salle, ça, on discute avec la salle pendant une demi-heure. Ça, c'est un type de rencontre. Deuxième type de rencontre, ça s'appelle « Histoire de ma thèse », où j'interview un doctorant sur son parcours. Donc ça porte à la fois sur son histoire à lui, c'est-à-dire pourquoi à un moment il décide de faire une thèse. C'est pas rien, hein, de faire une thèse. C'est un énorme travail. À un moment, il décide. Alors pourquoi ? Pourquoi il choisit son sujet, comment il le traite, comment il en fait un sujet universitaire. Et on rentre aussi dans le contenu de sa thèse. Et contrairement à ce qu'on peut croire, souvent c'est très très intéressant, c'est pas obscur. Le dernier, par exemple, c'était le maintien de la paix la question du maintien de la paix en s'interrogeant sur le fonctionnement de l'ONU. Bon, en fait, c'est passionnant. Et troisième type de rencontre, c'est histoire de ma recherche. Alors là, c'est des chercheurs qui viennent après avoir publié un article ou un ouvrage, un bouquin. Et ils viennent aussi raconter un peu la genèse, comment, pourquoi publier. Et on rentre aussi sur le contenu de l'article.
Et à l'instant, vous disiez que ça faisait que 2 ans que votre mission existait. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de médiation scientifique à l'UBO ? À la bibliothèque universitaire ?
Alors, distinguons bien l'UBO et la bibliothèque. À l'UBO, il y en avait, il y a une mission de médiation scientifique à l'UBO. Officiellement, je ne sais pas depuis quand, mais ça a précédé notre initiative. À la bibliothèque, il y avait eu comme ça ponctuellement quelques petites choses, notamment à la Pérouse où une collègue avait fait des rencontres très intéressantes avec des chercheurs. Mais il n'y avait rien de formellement défini comme une mission. Donc j'ai créé cette mission en prenant compte quand même ce qui existait déjà ici et là à la bibliothèque et bien sûr à l'UBO.
Vous venez de décrire les quatre types avec les expositions de rencontres que vous organisez. Comment vous choisissez les thèmes et comment ça se passe le choix oui. Et comment ?
Intéressant, comment formuler ça ? Le hasard. Le hasard, premier, quand j'ai commencé cette mission, on m'a posé un livre sur la table sur les lanceurs d'alerte et voilà, il y avait un auteur qui était prêt à parler de son livre. Donc je l'ai sollicité, c'était Francis Château-Renaud, sociologue à l'École des Hautes Études. Et autre hasard, il se trouve qu'il parle de Irène Frachon, par exemple, dans ce livre. Donc j'ai aussi sollicité Irène Frachon. Il y a eu une rencontre très intéressante entre un sociologue, des lanceurs d'alerte, et une lanceuse d'alerte célèbre, Irène Frachon. Ça, bon, voilà, là le hasard, on va dire. Mais en même temps, c'est pas de le hasard, c'est science aussi et société, la question du lanceur d'alerte. On est bien au carrefour de la science, par exemple la médecine, et la société. Et donc, j'ai les critères. Le critère, c'est science et société, d'accord ? C'est assez vaste. C'est incidence d'un procédé scientifique sur la société. Question de choix de scientifique aussi. Est-ce qu'on investit, par exemple, je ne sais pas, enfin, je parle comme ça sans réfléchir, mais dans le nucléaire, dans le solaire, bon, ça, c'est des choix de société. C'est aussi des choix scientifiques. Donc, ça, c'est la thématique. Ensuite, il y a, ensuite ou peut-être avant, en fait, valorisation des recherches qui sont menées à l'UBO. Donc, je travaille toujours en partenariat, peut-être sauf pour la première, là, donc avec Irène Frachon, encore que Irène Frachon, elle est de Brest. Je travaille en partenariat avec des labos. Il s'agit de mettre en avant aussi, de mettre en valeur à la fois les recherches menées, mais aussi, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la démarche scientifique. Ce que je voudrais, mon ambition, c'est que globalement, les gens qui écoutent, l'émission LabU, mais aussi qui viennent à nos rencontres, comprennent que le discours scientifique, c'est pas un discours commun, c'est pas un discours qu'on peut tenir dans un bar, par exemple. C'est un discours très élaboré, non pas au sens où il est compliqué, mais au sens où il est construit, très construit. C'est-à-dire, c'est un discours qui prend énormément de précautions, et c'est ça, sa valeur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la valeur spécifique de la façon dont les scientifiques élaborent des énoncés, des savoir-faire. Par exemple, sur le climat, s'il y a 1000 personnes, 1000 scientifiques qui ont travaillé pendant des années, qui ont hérité de tout ce qui a été fait avant eux, disent quelque chose sur la fonte de la banquise, j'ai plus tendance à les suivre, à les écouter, que mon voisin de bar, qui commence à boire trop peut-être, et qui affirme des choses sur... Bon. Voilà, spécificité du discours scientifique, ça c'est la façon dont j'ai envie de l'aborder. Les choix, ça peut être mes intérêts, mes propres intérêts, enfin mes intérêts, j'ai une curiosité absolument multiple, mais je cherche quelque chose que j'aurais fait. Oui, voilà, j'ai fait un cycle de sciences qui s'appelle « Sciences et prédictions ». Les sciences prédisent l'avenir. Par exemple, aujourd'hui, avec l'IA, l'intelligence artificielle, plus les ordinateurs, on peut, les banquiers par exemple, peuvent prédire, enfin, en tout cas, ils font des calculs pour ça, prédire l'évolution d'une crise, l'évolution d'un tarif, ou prédire la solvabilité d'un client. Les météorologues sont dans la prédiction en permanence, que ce soit à 3 minutes, à 2 jours, ou voire sur le climat à plus long terme. Et donc là, on a parlé des financiers, des météorologues, et du côté des juristes, aujourd'hui, il y a plutôt des informaticiens juristes qui sont capables de fabriquer des logiciels qui vont prédire, qui vont avoir pour ambition de prédire un jugement qui va être rendu par un juge, voire le taux de récidive d'un détenu. Alors forcément, c'est intéressant d'un point de vue scientifique, mais ça pose des questions sociales énormes. Quelqu'un qui veut sortir de prison, on le met dans un logiciel, on lui dit non, vous allez recommencer, donc vous ne sortez pas. Bon. Et j'ai fait une table ronde là-dessus sur la prédiction en sciences où j'ai réuni sur la même table des financiers et des météorologues qui ont discuté de leur modèle. C'est très intéressant, parce que les deux se référaient aux mathématiques, évidemment. Et pour la deuxième table ronde, là, c'était des juristes, bien sûr, qui venaient de publier un livre qui s'appelle La justice prédictive. Donc ça, c'est mes intérêts, on va dire. Autre raison d'organiser une table ronde, c'est de travailler avec des partenaires à Brest. Il y a un partenaire avec qui je commence à travailler régulièrement, qui est l'EREB, l'Espace de Réflexion Éthique de Bretagne. L'Espace de Réflexion Éthique de Bretagne, c'est des gens qui posent des questions éthiques à la société et à l'hôpital aussi, ils sont au sein de l'hôpital. Et leurs questions, moi, m'intéressent beaucoup. J'ai déjà travaillé avec eux. C'est agréable de travailler ensemble aussi, c'est important. Et bien là, on va programmer ensemble une table ronde qui avait pour premier objectif tout simplement de travailler ensemble. Et le sujet, c'est aider les aidants. Aider les aidants. Vous savez, un aidant, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a des vieux parents, par exemple, qui peuvent plus qui sont plus autonomes, donc il faut les aider. Ou un enfant, c'est encore plus... difficile, un enfant handicapé qu'il faut aider. Ces gens-là, les aidants, là, si on regarde bien les chiffres de près avec des économistes, on s'aperçoit qu'ils permettent d'économiser énormément d'argent, qu'ils font un travail nécessaire et qui sont peut-être pas toujours aidés à la mesure de leurs besoins. Eh bien, on va organiser une table ronde, encore une fois transdisciplinaire, puisqu'il y aura un gériatre psychiatre. donc gériade les vieux, psychiatre les fous, donc les fous et les vieux. Et il y aura un juriste. La question de droit est très importante. Les juristes sont souvent présents. Et une sociologue. Voilà. Donc là, moi, autre critère, parce que là j'ai parlé de mes critères, j'ai parlé de sens et société. Autre critère très important, c'est l'ambition qu'a l'UBO et la bibliothèque, et moi aussi, de faire une université citoyenne, c'est-à-dire le point de rencontre entre l'université et son territoire, la ville de Brest, le département, les gens. Et l'ambition de cette table ronde, c'est de s'adresser au grand public, vraiment de s'adresser au grand public, de s'adresser aux étudiants de l'UBO, de s'adresser aux chercheurs de l'UBO et de s'adresser au grand public, à la fois par ambition citoyenne, politique, etc., mais aussi peut-être pour la fertilisation croisée d'un échange transdisciplinaire et qui mêle profanes et experts sur une question.
Et justement, c'est table ronde, ces conférences sont assez ouvertes à celles et ceux qui ne font pas partie de ce champ scientifique, où ça reste encore un peu difficile des fois à comprendre ou qu'on ne fait pas partie de ce champ.
Non, la contrainte que je donne aux intervenants, c'est tout le monde doit comprendre. C'est, on va dire, mon enfant de 12 ans doit comprendre ce qui se dit. Et comment, alors c'est une question intéressante, parce que comment faire ? Comment expliquer, par exemple, la justice prédictive à des profanes qui sont ni juristes ni mathématiciens? Eh bien, on ne va pas partir évidemment de des règles de modélisation de machine learning, par exemple. Non, on ne va pas partir de là. On ne va pas partir non plus de la haute technicité du droit. Mais on va partir des enjeux et de ce que ça fait pour les gens qu'il y a une justice prédictive qui se met en place, c'est-à-dire progressivement, il y a des logiciels qui remplacent des instances de juridiction. Et dès lors qu'on part des enjeux, tout le monde comprend, tout le monde comprend. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les chercheurs sont pédagogues aussi. Ils sont même enseignants, souvent. Et donc, ils sont capables, si à un moment, ils doivent entrer un peu dans la technique, d'expliquer au public qui est supposé être profane. Voilà, donc, ça c'est pour le degré de langage, mais il y a aussi comment s'adresser à la ville quand on est à l'UBO. Eh bien, on essaie de faire venir la presse. On fait une émission avec Radio U. Merci Radio U. Voilà, notre communication s'adresse aussi à la ville, même si on peut encore améliorer peut-être les choses, parce que pour l'instant, on a... Le grand public vient, mais il vient pas assez nombreux à mon goût, évidemment, mais il vient. Ouais.
Et est-ce qu'il y a d'autres opérations de médiation scientifique à l'UBO, dans les autres facultés sur Brest ?
Oui, bien sûr, on n'est pas les seuls à la BU, heureusement, à faire de la médiation scientifique. Régulièrement, à l'UBO, il y a d'autres tables rondes, il y a des rencontres, il y a des conférences. Alors nous, on revendique de s'adresser directement au grand public. Parmi les autres choses qu'il y a à l'UBO, parfois, si, c'est revendiqué, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'adresse à tous les publics, parfois c'est un peu plus spécialisé. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses, bien sûr, les laboratoires ont beaucoup de choses à proposer. Je prends un exemple, les lundis de la santé, là, c'est organisé en partenariat avec l'UBO et ça marche très bien. Il y a aussi les rendez-vous historiques, je crois, les rendez-vous maritimes. Il y a des expos, enfin, il y a du travail. Pour être au courant de tout ça, quand on est à l'UBO, si on est abonné à la lettre de la communication, je crois, il y a toutes les dates qui sont annoncées ou sur le site de l'UBO, on doit pouvoir trouver ces dates. Ce qui manque peut-être, c'est un calendrier commun à tous ces événements. Ouais.
Dès demain à 19h, une nouvelle émission voit le jour sur les ondes de Radio U, elle s'appelle le Lab U. Pouvez-vous nous la présenter, Hervé Lemen, car vous la pilotez en tant que médiateur scientifique des bibliothèques universitaires?
Oui, je la pilote, je la copilote, attendons-nous. On a fait un travail remarquable, je profite de ça pour remercier chaudement, chaleureusement Morgane et Vincent, avec qui je travaille. Donc, l'idée de départ, c'est de partir d'un matériau énorme qu'on a, qui sont toutes les rencontres, que ce soit histoire de ma thèse, les tables rondes, histoire de ma recherche, etc. Ouais, c'est pas les trois, là. À partir de là, il faut faire de la radio. Donc, il faut penser la rencontre de deux formats. Le format des tables rondes, le format des radios. Table ronde, c'est 2 heures. 2 heures, pour moi, c'est pas un format radio, ni pour vous. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a divisé les tables rondes en trois parties. Moi-même, quand j'organise la table ronde, j'imagine déjà l'émission de radio. Et donc, je propose, j'impose à mes invités trois parties. Voilà. Par exemple, on en a fait une récemment, une table ronde sur le droit des animaux. Donc, première partie, c'était la façon dont les juristes décrivent les animaux. Les juristes peuvent dire que l'animal, c'est un bien, c'est-à-dire comme une table, une chaise. Mais ils disent aussi que l'animal, c'est quelque chose, c'est un être doué de sensibilité. Ah bon, d'accord, alors c'est plus une armoire, c'est plus bon. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Deuxième partie, j'avais la chance d'avoir une scientifique qui fait de l'expérience avec des rats. Donc elle avait le mauvais rôle, on va dire. Eh bien, elle nous a raconté les précautions infinies qu'elle prend pour ne pas stresser les rats qu'elle utilise pour travailler sur le diabète. Ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie, c'est « Mais alors, que fait-on ?» Et là, donc, l'évolution du droit, l'évolution des protocoles scientifiques avec les animaux en science. Donc là, on a trois émissions. Et après, il faut faire un habillage. Donc je viens ici à Radio U, dans les locaux de Radio U, faire l'habillage, c'est-à-dire faire l'intro. Vous êtes bien sur Radio U, etc. Bon, enfin moi je ne savais pas faire ça d'ailleurs. C'est un plaisir de le faire, c'est un plaisir d'apprendre à le faire ici, notamment à Radio U avec Morgane et Vincent. Et Morgane m'aide aussi, parce que bon, c'est un métier la radio et que je n'ai pas forcément, même si avant j'ai fait un peu de... Enfin j'étais comédien, ça m'aide. Voilà, donc on part d'un format, on va vers un autre format. En plus, on n'est pas en direct, donc on peut aussi corriger. Un live serait, pour débuter, serait un peu difficile. Voilà. Et ensuite, donc à chaque enregistrement, bon, il est une fois qu'on a fait l'habillage, on va le diffuser. Et là, on a une émission. On est capable de, avec le contenu qu'on a, on peut faire une émission tous les deux semaines pour toute l'année.
Et quelles sont les premières émissions, les premiers thèmes des émissions, notamment celle de demain ? C'est celle sur les animaux ?
Demain, on va commencer sur les animaux, ouais. Donc, on va commencer par une approche un peu de juriste sur la façon dont ils définissent les animaux. Mais encore une fois, ça ne s'adresse pas aux juristes, l'émission, ça s'adresse à tout le monde, à tout le monde. Mais on profite de l'intelligence spécifique des juristes, qui ont quand même une capacité à concevoir les conflits. Enfin, ils s'occupent de ça. Et qui ont une intelligence spécifique qui, en tout cas moi, j'ai profité à discuter avec eux et ils vont partir du droit, mais pour parler des animaux. Ça c'est demain, après, donc ça sera une première émission. La deuxième émission, forcément, comme on parle de table ronde, il y en aura trois sur le même sujet. On parlera là avec donc la scientifique qui va encore une fois parler de ses expériences avec les rats, mais non pas comme une scientifique qui s'adresse uniquement à des scientifiques, mais comme scientifique qui s'adresse au grand public. Quand même.
Et est-ce que des nouvelles rencontres donc organisées par les bibliothèques universitaires sont prévues pour le mois de janvier, voire début février ?
Je vous remercie de poser cette question. Le programme. Au mois de janvier, il y a un petit trou, donc la prochaine rencontre, ça sera le 11 février, il y a une thèse, une présentation d'une thèse, dont le titre m'échappe, là, j'ai pas mon papier, bon, invité surprise, et je crois que c'est sur les ports, c'est intéressant, je crois que c'est une comparaison des ports entre Brest et un port d'Amérique du Sud, donc, enfin bon, bah, voilà, on est dans... Le port d'Amérique du Sud, port de Brest, c'est intéressant. Et le lendemain, il y a Félix Tréguer, qui est un auteur assez connu, qui est fondateur de la quadrature du net, qui vient présenter son ouvrage « Internet, une utopie déchue, une contre-histoire d'Internet ». Et je vais l'interviewer, là c'est un format un peu différent, puisque je vais l'interviewer avec un juriste qui travaille sur le droit numérique. Et on va là... Alors le format est un peu différent aussi, parce qu'il y a qu'une personne, donc ça sera une heure et demie là. Enfin une heure, il y aura une interview d'une heure et après une demi-heure avec la salle. Et donc le sujet, c'est quelqu'un qui a vécu l'histoire d'Internet, qui a vécu l'utopie d'Internet, c'est-à-dire Internet sur la terre entière pour dialoguer, pour que tout le monde s'exprime, etc., qui est une espèce de... On a un peu fantasmé sur une démocratie mondiale. Et qui aujourd'hui, Internet, c'est quand même Facebook, Google. Bon, on n'est pas dans la démocratie globale. Enfin, bon. Et Félix Tréguer développe ça dans son bouquin. Et donc moi, je vais l'interviewer avec mon regard de naïf, c'est-à-dire de celui qui n'est pas expert. Moi-même, je suis expert en rien, en fait. Et mon collègue juriste l'interviewera un peu moins naïvement du côté du droit. Voilà, ça c'est le 12 février. Alors ça s'adresse à tout le monde et notamment à ceux qui pensent que Internet peut être autre chose qu'un gros magasin.
Et ces rencontres de février, comme toutes les autres, elles se passent à quel endroit à chaque fois ça change de lieu dans les bibliothèques universitaires de Brest ou c'est toujours au même endroit la même bibliothèque?
On a deux lieux privilégiés qui sont la bibliothèque de lettres, qui est en plein centre-ville à Brest. C'est super quand on est en centre-ville. Là, on va plutôt programmer des choses qui vont avoir avec les sciences humaines, c'est-à-dire sociologie, psychologie, etc. Et on a, ça c'est le campus de sciences de lettres, on a le campus de sciences et droit, ESTAPS. Donc si on parle de droit, c'est là où on va faire les rencontres à la BU du Bougain, la bibliothèque universitaire du Bougain. La prochaine, là, sur Internet, ça sera la bibliothèque universitaire du Bougain. Une fois, on a fait une table ronde directement dans le pôle numérique où on était en connexion avec Rennes et Nantes. On a profité d'un réseau de bibliothécaires et l'émission, ça c'était la rencontre avec Frachon et Château Renaud qui était quand même un moment exceptionnel. On a été jusqu'à Nantes pour cette émission spécifique. Mais sinon, c'est BU du Bougain, BU Lettres plutôt. Hein.
Bah, merci beaucoup Hervé Lemaine d'être venu à Radio U pour présenter cette nouvelle émission, le Lab U, qui commence dès demain sur les ondes de Radio U.
Merci.